BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Allez, avec Vincent
reparti.
Touraine.
C'est reparti pour une nouvelle heure et ce sera la dernière d'ailleurs de BFM Bourse. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet après-midi au sommaire de cette nouvelle heure. Et bien les marchés bien entendu qui se reprennent aujourd'hui, en particulier le CAC 40, pratiquement 1% de hausse, 7864. Alors c'est sûr, on n'efface pas les deux séances de baisse de lundi et de mardi, mais en tout cas on se reprend et c'est une hausse qui est amplifiée par la publication des chiffres de l'inflation américaine. C'est le deuxième titre de notre actualité, une inflation américaine qui ralentit un petit peu plus que prévu, et ce qui laisse anticiper davantage de baisses de taux de la Fed. Notre troisième titre, ce sont cette réunion de la Fed qui se termine ce soir. Il n'y aura pas d'annonce sur les taux, bien entendu, mais on regardera les dot plots, justement, pour voir un petit peu ce qu'anticipe la Fed en matière de baisse de taux d'ici à la fin de l'année.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club de la bourse avec nos deux invités, Rachid Medjaoui et Eric Bertrand. Bonjour messieurs.
Bonjour Vincent.
Rachid, vous êtes directeur adjoint de la gestion privée de Louvre Banque Privée. Et Eric, directeur général délégué en charge des gestions d'OFI Invest AM. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, on va analyser ces marchés qui ont connu un début de semaine agité, qui se stabilise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Et puis, que penser aussi de ces chiffres américains qui ont été publiés, une inflation qui ralentit un petit peu plus que prévu. Qu'est-ce que ça nous dit des intentions de la Fed? On sait qu'elle va baisser ses taux. La BCE a commencé, bien entendu. La Fed américaine va lui emboîter le pas, mais avec quel rythme, hein? C'est le calendrier de la Fed qui nous intéresse désormais. Tout d'abord, sur ce marché qui, depuis l'annonce choc de la dissolution, est très très mouvementé. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Cette correction du CAC 40, est-ce qu'elle vous paraît justifiée ou est-ce qu'elle est allée un petit peu trop loin par rapport au contexte politique en France, Rachid?
On est, je crois, on a une réaction. Alors, ça, si on regarde globalement, on est à peu près dans le même, la même configuration qu'on avait eue, si vous vous souvenez, lors de la première élection présidentielle, quand on avait craint un duel. Le Pen-Mélenchon, à l'époque, le CAC avait abandonné à peu près 3% sur quelques jours. Donc globalement, ça a l'air d'être à peu près normal. On réévalue pareil du côté du spread OAT Bund. Hein.
On avait pris. Il est à un plus haut depuis le mois de novembre, c'est
oui,
ça?
Oui, mais on a pris à peu près ce qu'on avait pris à l'époque quand on avait réévalué le risque français. Maintenant, quand on regarde sectoriellement, il y a quand même des dégâts. Comme d'habitude, oui. Les banques font caisse de résonance. Toutes les sociétés qui ont des chiffres d'affaires très importants en France, parce qu'on a peur qu'elles viennent être, j'allais dire, ponctionnées par le prochain gouvernement. Maintenant, il faut lever la tête et regarder quand même qu'en dehors de... Déjà, quand on quitte la France et qu'on va en Europe, on a des marchés qui finalement ne sont pas aussi volatiles que ça. Et puis quand on va aux États-Unis, alors là, on est carrément sur des records. Donc, je dis tout ça, rappeler que... Le poids de la France, c'est 3% dans l'indice mondial. C'est un peu plus, c'est 18% en Europe, mais bon, voilà, il faut quand même relativiser, même si c'est important, peut-être moins pour la France que pour l'Europe, et peut-être qu'il y a d'autres dates plus importantes que le deuxième tour de l'élection française à venir.
Eric Bertrand, votre appréciation de la réaction des marchés à ce contexte politique, non seulement en France, mais aussi en Europe, parce que on l'a pas dit, mais il y a aussi une montée des nationalismes dans toute l'Europe, hein, et ils ont fait fort en Allemagne, ils ont fait fort toujours en Italie, ils étaient déjà là, mais ça a été confirmé en Autriche aussi.
Déjà, sur le mouvement, on est dans un cas classique de fait disruptif qui n'est pas anticipé. Les marchés aiment bien la visibilité, il y a de l'incertitude, ils réagissent tout de suite à chaud. Maintenant, on rentre dans une phase d'analyse. C'est très juste de reparler des élections européennes. Il y avait annoncé depuis plusieurs mois une montée des partis dits populistes et extrémistes, principalement à droite, en Europe. C'est plutôt moindre que ce qui était attendu.
C'est moins.
Il y a un fait qui est important et qui est fondateur et qui a un peu passé sous silence du fait de l'annonce de la dissolution, c'est que les partis, la coalition actuelle de Mme von der Leyen sont toujours majoritaires, un peu plus de 55%, donc... la droite classique.
Donc ça restera l'espèce de coalition là entre le PPE, les centristes, les centristes qui ont quand même perdu de leur superbe et les socialistes, hein, c'est ça.
Alors la réélection.
Donc rien ne change à Bruxelles.
Rien ne change. Je pense qu'ils ne peuvent. Ils vont pas faire d'alliance, mais ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de cette poussée pour la prochaine élection. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers, immigration ou climat, qui vont revenir peut-être différemment sur la table pour, je dirais, essayer de désamorcer ce qui est en train de monter. Maintenant, si on descend au niveau français, incertitude, surprise.
C'est surtout là qu'il y a eu le Black Swan.
Et le choc est un peu là. Et,
c'est ça le plus inattendu.
C'est clairement là le plus inattendu et ça crée une forme d'incertitude parce que si on applique stricto sensu le programme annoncé du Rassemblement National, on est entre 4 ou 5 points de déficit sur PIB de plus.
Est-ce qu'on connaît vraiment ce programme? C'est celui de 2022. C'est celui de 2022.
Il y a quelques mesures qu'on peut isoler.
Gabriel Attal dit oui, c'est 100 milliards de dépenses. Ce chiffre, il se base sur le programme présidentiel 2022 de Marine Le Pen.
La TVA, la suppression de la TVA sur les biens de première consommation ou sur la reprise des retraites.
Sur l'énergie.
On voit déjà qu'il commence à y avoir une forme de rétropédalage.
Ouais.
Parce que maintenant, où tout le monde était un peu pris de vitesse, parce que, effectivement, ça crée un peu d'inquiétude, donc sur l'écart de la dette française, sur les banques françaises, parce que elles vont devoir se refinancer, particulièrement la Société Générale, parce que M. Macron avait quand même annoncé que elle était sur le cherchait plutôt à la
c'est la plus fragile des grandes banques françaises
de jours. Donc voilà, dans une réaction normale, maintenant il va falloir voir comment ça s'enchaîne et puis étudier les différentes possibilités. Juste un message là-dessus, le compte tenu de la structure de la dette et du pays, la France est un pays riche qui sait très bien lever l'impôt, on aura plus ou moins de volatilité en fonction des annonces et du comportement des uns et des autres, mais à la fin ça finit bien sur la dette française. Par contre c'est la trajectoire.
Pour l'instant ça finit bien sur la dette française.
Non, à la fin. Il y aura sûrement une période de volatilité plus ou moins importante. Mais ça finira.
Vous ne croyez pas une crise de la dette française à plus de 3000 milliards d'euros?
Il faut se rappeler des différentes séquences de dette, que ce soit 2012. On a eu l'exemple de Liz Truss qui a fait 6 semaines en annonçant des dépenses et des baisses de taxes non financées. Madame Meloni, on l'a vu quand elle était arrivée au pouvoir, tout le monde craignait le pire. Elle a eu des avances.
Tout finit par se normaliser d'une certaine façon.
Alors, soit ça se normalise en amont avec un peu de rationalité, soit ça se normalise, pardonnez-moi l'expression, mais avec le flingue sur la tempe des marchés où on se rend compte que tout d'un coup c'est pur finançable, faut arrêter. Donc, il est à espérer qu'il y ait assez d'intelligence de la part du futur gouvernement de ne pas aller chercher ce point-là pour revenir à la raison d'un point de vue financement.
Alors en parlant de marché, parce qu'on va demander à Étienne dans un instant, je vois qu'il est là d'ailleurs, il nous attend depuis Euronext. Vous parliez des bancaires justement qui ont été attaqués ces 2 premiers jours de la semaine. En fait, Étienne, là ce sont vraiment les bancaires qui mènent la charge. On se reprend très fortement et c'est pas juste un rebond technique, il y a aussi un broker qui les aide aujourd'hui.
En effet, notamment ce qui concerne Crédit Agricole, même si la hausse est bien loin de rattraper la baisse de ces 2 dernières séances. Typiquement, quand vous regardez Société Générale, la valeur reprend 2,8% à 23,53 alors qu'elle a perdu plus de 10% en 2 séances. Donc vous voyez, c'est un maigre rebond par rapport à ce début de semaine, plus 1,9% pour BNP Paribas à 61,94 quand Crédit Agricole, de son côté, gagne un peu plus de 1,5%. Vinci également, qui a perdu beaucoup de terrain avec ses élections législatives et le marché qui s'inquiète. Est-ce que les autoroutes vont être nationalisées ou pas si le Rassemblement National prend le pouvoir. En tout cas, aujourd'hui, Vinci reprend 3% à 103,75 €. Autant de valeurs qui permettent à l'indice de rebondir. Plus 0,98% pour l'indice parisien, au-delà des 7 865 points. À noter les volumes d'échanges qui sont inférieurs à ces 2 derniers jours, mais qui sont supérieurs à la normale. Quasiment 2 milliards d'euros négociés dans l'indice. Alors, il n'y a pas de record à Paris, contrairement à Wall Street. Quand vous regardez le S&P 500 et le Nasdaq, qui sont sur des plus hauts historiques, grâce notamment à Apple, qui après avoir gagné 7% hier reprend un peu plus de 4% aujourd'hui. Nvidia également qui est en forte hausse. Tout ça propulse les indices américains. Rendez-vous compte, le Nasdaq gagne 1,8%, 17 653 points. Aidé aussi bien sûr par cette détente de l'obligataire avec un 10 ans américain qui perd 13 points de base après la publication des chiffres d'inflation. 87 pour le 10 ans américain quand le 2 ans de son côté perd 15 points de base à 4,68 avant la Fed qui est attendue au tournant ce soir. On sera d'ailleurs à l'antenne à 20h, à 21h pour regarder la réaction des marchés. marché. Et puis bien sûr, Jérôme Poel qui est attendu au tournant à sa conférence de presse à partir de 20h30.
Merci Étienne. On vous retrouve dans quelques minutes là, à l'approche de la clôture et bien entendu pour nous donner la clôture à la Bourse de Paris à 17h35. Éric Bertrand, Rachid Medjaoui, quand on entend Apple comme ça, à quoi 215 $ l'action, de nouveau première capitalisation mondiale, on se dit pas un peu et tous ces records sur les indices américains, on se dit pas un peu que ça commence à chauffer là sur les marchés actions, que ça va un petit peu trop loin, le marché actions américain en particulier.
C'est chaud, mais c'est pas brûlant. Pourquoi ? Parce que derrière la hausse, faut regarder si les profits, ou en tout cas les espoirs de profits, sont raisonnables, peuvent être atteints. Et clairement, aujourd'hui, on a une toile de fond. Et c'est ça.
On a plutôt eu des déceptions sur Apple ces dernières semaines.
Oui,
il suffit d'une annonce sur l'IA pour que ça reparte de plus belle.
C'est quand même des déceptions relatives. Parce que, comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que cette crise française arrive dans un contexte, dans une toile de fond, globalement, qui est assez constructive, partout dans le monde. On parle plutôt de redressement de la croissance, plutôt de possibilités, même si ça va moins vite que
ça ralentit
qu'attendu.
Aux États-Unis.
Oui,
enfin.
mais vous savez, ça ralentit, mais ça reste.
Mais c'est vrai qu'en Europe, ça va un petit peu mieux.
Voilà. Et ça ralentit aux États-Unis, mais sur à peu près 2%, ce qui serait remarquable. Et il faut se rappeler, par exemple, quand on a vu le Brexit, ça avait baissé fortement pendant un ou deux jours, et puis c'est reparti derrière parce que justement, le momentum mondial était plutôt favorable. Et c'est important de, je disais, la France, ça représente 3% des indices mondiaux. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête parce que, une grosse partie du chiffre d'affaires et des profits des boîtes françaises, il se fait pas en France, Donc, faut se le rappeler tous.
On s'intéresse beaucoup au CAC 40,
Donc voilà, mais c'est normal, c'est notre
Et quand Total dit, on va aller à New York,
c'est notre
baromètre.
Voilà.
Et
c'est vrai que nous, par exemple, dans la communication qu'on a avec nos clients, on écrit depuis plusieurs mois, plusieurs semaines que la toile de fond macro-micro est constructive et que le seul risque, au fond, pour les marchés, c'était un risque géopolitique ou politique, mais on pensait plus des élections américaines que des élections européennes. Cela étant, sur les élections françaises et européennes, le 7 juillet, ça va être très important, bien entendu, mais le 16 juillet, c'est aussi important parce que c'est le jour où le Parlement européen est installé. Normalement, Eric le disait, il n'y a pas eu de surprise, au contraire, le PPE, la coalition en place aujourd'hui est largement majoritaire, mais Madame von der Leyen doit être élue par le Parlement. Il faut se rappeler, c'est des votes bulletin secret. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait quand même une mauvaise surprise et que le Parlement se rebiffe un petit peu parce que...
Ça pourrait être Mario Draghi, non, je crois.
Alors ça serait ça c'est le scénario, j'allais dire, boucle d'or pour l'Europe. C'est sûr que si on avait Mario Draghi, pour le coup, l'Europe...
Alors on s'éloigne d'Apple, mais Éric Bertrand, votre avis sur une valeur comme ça qui flambe à ce point-là une cote techno-américaine qui est toujours plus concentrée finalement. Et là, sur trois valeurs, c'est plus les sept magnifiques, c'est les trois magnifiques. Surtout Apple, Nvidia et Microsoft.
Ouais. Ça fait, pour la petite histoire, ça fait 10 ans que je dis qu'il ne faut pas vendre Apple. blague à part, il y a une avance technologique des US sur le sujet qui est mondiale et qui sera d'autant moins challengée par la Chine qu'il y a une reprise en main idéologique sur les entreprises économiques qui pouvaient vraiment être une forme de concurrence. Aujourd'hui, on est dans la phase on crée des puces qui vont faire des logiciels, donc on est entre les trois gros. Après, il y aura une diffusion dans l'ensemble de l'économie. Le point qui est important dans ces valorisations, elles ont des multiples élevés, certes, mais à la différence des précédentes bulles qu'on a pu connaître, je reprends le point de Rachid, c'est chaud, mais ça délivre. On a des résultats, il y a des bénéfices, et il y a une avance absolument colossale. Alors, ça va peut-être un peu vite, un peu loin. Il faut voir que le reste du S&P n'est pas du tout dans le même état que le top 3. Ça crée une concentration qui perturbe la lecture des indices. C'est pas forcément usurpé, on est un peu en terrain incognita. Alors, je ne vais pas faire une exégèse de l'IA, je vais plutôt demander ça à ChatGPT, mais ça va prendre... On va prendre du temps avant de réaliser les gains de productivité, les bénéfices qui pourront être faits dans le monde, je dirais, industriel ou consommation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins aberrant que certaines bulles qu'on a pu connaître techno dans le passé.
Et en termes de résultats, est-ce que les résultats des entreprises américaines suivent cet emballement du marché ? Comme vous le disiez, il y a une grosse différence entre les Magnificent et les autres. Le gros des entreprises américaines voit leurs résultats ralentir un petit peu parce que l'économie ralentit, témoin cette inflation qui progresse un petit peu moins que prévu. Donc, D'une façon générale, ça ralentit.
Le S&P 493, si on peut l'appeler comme ça, ou 497, est pas dans le même état que les trois magnifiques. Et c'est vrai que dans la formation du résultat au global, il va falloir passer de bonnes marges qui viennent d'un effet prix. On a pu répercuter une inflation.
On n'a pas atteint une certaine limite, justement.
Et maintenant, il va falloir passer à l'effet volume. Et ça, c'est un vrai challenge sur le marché américain, sur la partie non-tech du S&P 500. Et nous, très clairement, sur le deuxième semestre, c'est ce qu'on va regarder dans un contexte de ralentissement. Alors, c'est bien un peu le sujet. On a un chiffre d'inflation, donc on a une Fed que... Alors, d'accord, on a de bons chiffres de croissance, des mauvais chiffres d'inflation, des bons chiffres d'ISM, des mauvais chiffres de PCE, des bons chiffres... On est dans une forme d'oscillation.
Ça peut changer d'une semaine sur l'autre.
En attendant que la Fed dégaine, je pense, pour reprendre le propos introductif tout à l'heure, c'est que au-delà du calendrier, c'est est-ce qu'on enclenche bien un cycle de baisse? Ce qu'on va bien avoir, il y a deux baisses aujourd'hui, un peu moins de deux baisses qui ont été remises dans la courbe en anticipation sur 24, 4 sur 25. C'est plus ce mouvement de on va vers un assouplissement des conditions monétaires
mais on n'en est pas tout à fait sûr. Alors.
Mais on n'y est pas encore. Il faudra encore, à mon avis, deux mois comme ça où on a un effet mensuel. Là, c'est 0,1. Enfin, c'est 0,1 de surprise baissière et 0 en rythme mensuel. Ah ouais. Si la Fed a ça trois mois de suite, en septembre, elle baisse et puis elle refait sans doute un mouvement en décembre. Maintenant, il faut voir que les services, on est encore à 3,9. Ça baisse pas vraiment. Il peut y avoir d'autres types de surprises sur l'inflation, pardon, ce qui est largement au-dessus de la Fed. Donc, on est encore sur un chemin où c'est pas une affaire emballée encore, mais ça reste plutôt notre scénario central.
Rachid Medjaoui, on ne sait pas encore véritablement s'il y aura ces deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.
Nous,
faut encore des preuves supplémentaires.
On y croit, et dans le chiffre qui est tombé tout à l'heure, il y a un élément très très important, parce qu'il vous a pas échappé que sur les trois derniers mois, on avait eu des mauvaises surprises, que notre diagnostic, c'était de dire que ces mauvaises surprises étaient liées à des hausses qui n'ont rien à voir avec le cycle économique, par exemple des hausses vertigineuses des assurances pour les voitures. Et là, la bonne nouvelle, c'est que dans le chiffre de cet après-midi, c'est qu'on a effectivement toutes ces hausses de prix un peu anormales, mais qui n'ont rien à voir avec le cycle, qui sont revenues. C'est pour ça qu'on a une baisse, par exemple, à moins zéro, en dessous de zéro, on a une petite baisse de l'indicateur que suit Powell, qui sont les services hors immobilier. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on passe d'un rythme de 0,5 par mois à un rythme qui est même négatif sur le mois. Donc c'est une excellente nouvelle, mais je rejoins Eric, parce que on écoute les gens de la Fed, et je pense que la Fed ce soir va nous dire il faut un peu de patience, il fallait confirmer que les mauvaises surprises c'était juste des mauvaises surprises. On les a confirmées, maintenant il faut confirmer qu'on reprend le chemin de la désinflation, même si c'est de manière graduelle, et si c'est le cas, effectivement, deux baisses de taux, ça paraît être un minimum pour cette année, oui.
D'accord. Et dire qu'il y a quelques semaines encore, on disait qu'il n'y en aurait peut-être pas d'ici la fin de l'année.
En décembre, il y en avait 7.
Il y en avait 7,
Donc, il y en avait 7, après il n'y en avait plus, et maintenant il y en a 2. D'accord. Faut bien suivre l'émission BFM Bourse avec nos experts. Eric, dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites dans vos portefeuilles chez Ophi Invest AM, votre stratégie d'investissement, votre allocation d'actifs du moment?
Nous, on aime bien globalement la classe d'actifs obligataire. Ça fait 10 ans qu'on n'était plus payé pour porter du risque. Maintenant, c'est le cas.
Peut-être un petit peu moins bien, non? À mesure que les taux s'érodent. Ouais.
Voilà. Maintenant, on a quand même un stock obligataire qui rapporte. Maintenant, quand on a un 10 ans américain qui va tutoyer les 4.75, voire un petit peu au-dessus, on a tendance à l'acheter. Puis quand il revient vers les 4.25, plutôt tendance à s'alléger. Mais au global, on a un socle obligataire et un socle crédit, entreprise. On a des effets de compensation. Quand on s'inquiète, les taux baissent, les spreads s'écartent. Quand ça remonte, c'est l'inverse. Et au global, on peut toucher un coupon. Donc on trouve que c'est un vrai bon amortisseur en portefeuille. On est payé pour le risque. Et contrairement à ce que j'ai entendu des tonnes de fois, les entreprises savent très bien gérer leur mur de refinancement, leurs endettements, leurs taux de défaut.
Il n'y en a pas un qui arrive là en 2025 qui risque de faire mal, non?
Alors, quand on voit le marché primaire, le mois dernier, 80 milliards, record absolu. Même une boîte comme Alstom, qui est un peu engluée dans ses problèmes de rachat de Bombardier, réussit à des missions primaires, sur le marché. Il y a un appétit pour le crédit et les entreprises sont résilientes. Sur la classe d'actifs actions, on est aujourd'hui globalement plutôt neutre. Alors, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais on voit qu'on a un marché très fort, emporté par le marché américain, Dans un contexte d'assouplissement monétaire à venir probable, qui est plutôt porteur, et puis il faut voir ce qu'on a en 2025 et notamment avec la remontée en Europe. Inversement, de l'autre côté, on va avoir de la géopolitique, des élections, peut-être d'autres surprises. Et donc du coup, on est plus assez mobile autour de la neutralité, et notamment ce qu'on aime bien, c'est, je vais dire, utiliser un terme barbare de convexité, mais c'est-à-dire qu'on a des portefeuilles qu'on cherche à rendre dynamiques, c'est pour pouvoir sensibiliser à la baisse ou inversement sécréter à la hausse de façon automatique, ce qui fonctionne pas mal dans les épisodes qu'on est en train de connaître en ce moment.
Et Rachid Medjaoui, chez Louvre Banque Privée, quelle est votre allocation d'actifs du moment?
Bah écoutez, l'allocation d'actifs, nous, le fil rouge depuis déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres, c'est que post-Covid, nous sommes probablement dans un monde où il faut mieux être sur des actifs indexé à une inflation qui certes va s'améliorer mais qui va rester quand même assez persistante. Donc on aime bien les actions. La seule question, c'est faut-il être en Europe, aux États-Unis? C'est vrai qu'on avait depuis quelques semaines, depuis quelques semaines, on était revenu en Europe. Ouais. Mais voilà, ce choc géopolitique, là, enfin politique, nous a amené à revenir peut-être à réduire de nouveau notre surpondération sur l'Europe et à équilibrer un peu les portefeuilles. Mais le message quand même, c'est que devant nous, il faut mieux être sur les actions. Alors sur les taux, oui, bien entendu que les rendements que l'on a aujourd'hui assurent une performance tout à fait honorable pour les prochaines années. Vous vous rappelez que sur l'obligataire, c'est le niveau d'entrée sur les taux qui assure à peu près votre performance à moyen terme. Cela étant, dans ce monde d'incertitude sur quand même où finiront les taux d'intérêt, et ce soir, je pense qu'une des questions majeures, c'est est-ce que Powell nous annonce deux baisses, au moins deux baisses de taux ou pas? Ils étaient à 3 la dernière fois. Et surtout, est-ce qu'ils bougent leur taux terminal? C'est ça qui est important. Est-ce que dans 2 ans, la Fed finit plutôt en dessous de 3% ou est-ce qu'elle reste au-dessus de 3%? Et ça, c'est très important pour savoir où est-ce qu'on va mettre le niveau du taux long. Donc sur l'obligataire, nous sommes tactiques et moins stratégiques que sur les actions.
Très bien. Messieurs, vous restez en plateau. On est à moins de 10 minutes de la clôture à la Bourse de Paris. Et Étienne Braque, qui est à Euronext, va nous dire où on en est. Bah, on en est toujours à peu près au même point. Hein. C'est toujours une belle hausse pour le CAC 40. Ça tient.
Ça tient, en effet, plus 1%, quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, à 4 points, précisément 7871 points pour l'indice parisien, avec, contrairement à hier, la Bourse de Paris qui met de côté le risque politique français, qui se concentre sur ces chiffres d'inflation qui ont été publiés tout à l'heure aux États-Unis, en dessous des attentes, 3,4%, alors que le consensus s'attendait à 3,5%, donc ça fait forcément une belle détente sur l'obligataire aux États-Unis, mais aussi surtout en France. Regardez, le 10 ans français, il est à seulement 3 points de base de vendredi soir. 3,14 ce 10 ans français, alors que hier il était monté à plus de 3,3%. Donc forcément, c'est une bouffée d'air pour la Bourse de Paris. A noter que le secteur du luxe ne participe pas au rebond du jour. LVMH, Kering ou encore Pernod Ricard sont en repli. Bah oui, parce qu'il y a à nouveau le risque d'une guerre commerciale entre l'Europe et la Chine qui fait son apparition. L'Union Européenne qui souhaite taxer les véhicules chinois. De l'autre côté, la Chine qui dit attention, si vous le faites, nous on va prendre des représailles vis-à-vis de l'Europe. Donc forcément, le secteur du luxe sous-performe aujourd'hui, mais ça n'empêche pas la Bourse de Paris d'être en belle hausse, plus 1%, 7869 points à 8 minutes de la clôture.
Et encore, on a encore un petit peu de temps, on rappelle, hein, Apple, même si c'est pas la clôture à la Bourse de Paris, mais c'est quand même la valeur star. On en est à combien là? On était à 215 en tout début de séance, plus 215 dollars, ouais. Combien, Étienne?
Plus 5% sur les plus hauts niveaux de la séance. Apple, après avoir déjà pris 7% hier, vous voyez, ça va très vite. Un titre qui est en effet sur des plus hauts historiques à 217 dollars l'action, 3335 000 milliards de capitalisation boursière. C'est 80 milliards de plus que Microsoft. Donc ça y est, Apple retrouve sa place de première capitalisation mondiale. Alors qu'il y a quelques semaines, souvenez-vous, il y avait des doutes. Est-ce que Nvidia va devenir la première? Bon, bah finalement, Nvidia redevient la troisième capitalisation mondiale. Alors le titre est quand même sur des plus hauts historiques, hein, surtout depuis le split qui est intervenu. Revenu en début de semaine, 125 dollars à l'instant pour cette action Nvidia. Microsoft qui n'est pas en reste, plus 1,2%, 438 dollars avec cette détente sur l'obligataire. Et puis Apple qui continue d'être porté, comme hier avec son plus 7%, par les annonces de lundi soir sur l'intégration de ChatGPT dans l'iPhone, avec de plus en plus d'intelligence artificielle dans les Mac, dans les iPad. Et suite à cela, bon nombre d'analystes s'attendent à un succès du prochain iPhone, puisque mon cher Vincent, si vous avez un iPhone 12 ou 13, bah, ça ne marchera pas. Il faudra un iPhone 15 voire 16, de quoi peut-être rebooster les ventes, sachant que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, les investisseurs sont déçus à cause d'un ralentissement des ventes d'iPhone en Chine. Donc c'est peut-être l'IA qui va porter les futures ventes d'iPhone, et suite à cela, ce titre rebondit très clairement. Depuis deux jours, rendez-vous compte, il a pris plus de 12% en l'espace de deux séances.
Je suis à moitié dans l'écosystème Apple avec mon MacBook, mais pas avec le téléphone. Merci Étienne, on vous retrouve dans 6 minutes pour la clôture, l'analyse de la clôture à la Bourse de Paris. 17h29, c'est l'heure de la Data Room. En principe, il y a un petit éclairage particulier, Messieurs, vous êtes venus chacun avec un chiffre marquant que vous avez choisi. Rachid Medjaoui, ce chiffre, je l'ai sur un papier, mais vous allez me le redire, j'ai tellement de papiers partout, 75%, à quoi ça correspond ?
75%, ça vient de la dernière enquête réalisée, enquête annuelle réalisée par le Manpower Group, et 75%, c'est le pourcentage de sociétés dans le monde qui indiquent avoir des difficultés pour recruter. Juste rappeler que cette proportion d'entreprises n'était que d'à peine plus de 50% avant la crise du Covid. On voit quand même un changement structurel sur cette thématique de la pénurie de main-d'œuvre dans le monde. Alors, c'est pas nouveau, mais encore une fois, ça vient. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication ? D'abord, c'est un phénomène qui s'inscrit plus globalement dans un contexte de vieillissement démographique. Donc, c'est une autre thématique structurelle très, très importante, avec des impacts importants. C'est un phénomène qui touche tous les pays, et pas simplement les pays occidentaux, mais également certains gros pays émergents, et on pense bien entendu tous à la Chine. Alors, les conséquences macroéconomiques, de manière assez simple, c'est ça bride la croissance et ça met un peu plus de pression sur l'inflation. Donc, voyez, on est dans ce monde post-Covid, où les pressions inflationnistes sont alimentées par des éléments un peu plus grands. Et puis, alors il y a pas de fatalité. Il faut investir dans la technologie, mais également investir dans l'information. C'est ça qui est nouveau dans cette enquête précise, qu'il faut investir massivement dans l'information pour justement Alors le recours à l'immigration sera incontournable, et on est en plein dedans dans le débat politique. Simplement, il faut le gérer de manière plus humaine et plus efficace. Et l'idée de, par exemple, de former localement les futurs candidats à l'immigration est une idée qui est en train d'être avancée et que je trouve intéressante. Puis, conséquence juste sur les.
Parce que Eric a aussi sa data.
Voilà, c'est juste pour, en termes d'allocation d'actifs, ça renforce l'idée qu'il faut être plus action que tôt pour les prochaines années.
On a bien compris le message. Voilà. Eric Bertrand, votre data, c'est 12.
12. Alors, c'est pas les doigts de la main.
Qu'est-ce que c'est au fait ?
Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.
Ah, ça perturbe cet environnement un peu d'intelligence artificielle là.
La dette française et la dette allemande, qui est la dette de référence, le spread, qui est passé de 0,48% à 0,60%. Donc ce chiffre est intéressant parce qu'il montre qu'il y a un sujet français. A priori, dans les 6 semaines qui viennent, on est sur quelque chose de plutôt asymétrique. On peut avoir des bonnes nouvelles, mais tant qu'il n'y aura pas le résultat des élections, ça ne peut que probablement s'écarter. Maintenant, jusqu'où ça peut aller ? Lorsqu'on avait craint un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, on était allé voir 0,8% d'écart, c'était encore gérable. Par contre, je rappelle, en novembre 2011, on était allé voir jusqu'à 1,7 ou 1,8% d'écart, et c'est là où ça devient très vite compliqué et où les gouvernants doivent très vite agir, sinon on finit un peu comme Liz Truss. Ça va donc être à surveiller, mais je réinsiste, bien après tout cet épisode, on reste content sur la... Enfin, pas inquiet sur la dette française dans sa capacité à être remboursée. Maintenant, on pourra peut-être l'acheter un peu moins cher ou avec un meilleur rendement que maintenant en fonction de ce qui va arriver dans les prochaines semaines.
On en parlera d'ici là. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nous avoir accompagnés dans ce club de la Bourse. Éric Bertrand, directeur général délégué en charge des gestions d'OFI Invest AM, et Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion privée de Louvre Banque Privée. Voilà, bientôt 17h35, l'heure de la clôture, toute petite pause, et on refait, non pas le match, mais la séance bien sûr, jusqu'à 18h, avec d'autres intervenants, certains qui reviennent, d'autres qui vont nous rejoindre. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Et la clôture à Euronext, c'est au son de la cloche hein, qu'on la marque, cette clôture. En principe, il y a une petite cloche. Je ne sais pas si c'est vous, Étienne, qui l'agitez, cette cloche. On refait la séance, non seulement avec vous, Étienne Brack, à Euronext. On va retrouver tout à l'heure Romain Daubry, Bourse Direct, et sont d'ores et déjà en plateau. Franck Morel, président de Zone Bourse. Bonjour Franck. Et Thibaut François, qui nous accompagne depuis le début de cette émission de Fastea Capital. Qu'est-ce que ça donne, la clôture, Étienne? Est-ce qu'on garde les 1% de hausse? Je crois qu'on est légèrement en dessous.
Quasiment, oui, en effet. 0,97% de hausse ce soir à la clôture, un CAC 40 qui retrouve les 7800 points, 7864 points. En effet, une partie, puisque pour rappel, en l'espace de deux séances, le CAC 40 a perdu 2,7%, donc il reprend quasiment 1% ce soir. Des volumes d'échanges qui sont supérieurs à la moyenne de ces dernières semaines, mais inférieurs à ces deux dernières séances. 3,7 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien, avec le secteur bancaire qui rebondit, qui rattrape en partie ses pertes de ces deux dernières séances. Société Générale reprend un peu plus de 2%, 23,35. Vous avez BNP également qui prend plus de 2%, Vinci plus 2,3% à 103,10. Quand de son côté, les valeurs défensives sous-performent ce soir à la clôture. Idem pour le secteur du luxe. LVMH perd 0,2% à 735. Kering moins 0,8% à 316. Avec un nouveau risque de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et la Chine, pardon, puisque vous avez l'Europe qui souhaite mettre en place des taxes sur les véhicules chinois et la Chine qui prévient que si ça se concrétise, eh bien, n'hésiterez pas à mettre en place également des taxes vis-à-vis de l'Europe. À noter l'obligataire qui se détend très clairement ce soir avec des chiffres d'inflation qui sont ressortis très clairement en dessous des attentes en ce qui concerne l'inflation aux États-Unis. Le 10 ans américain perd 13 points de base à 86 et dans le sillage, le 10 ans français perd 10 points de base à 3,14 alors qu'il était à 3,11 vendredi. Donc vous voyez, il y a une nette détente de l'obligataire, de l'OAT 10 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle après le stress de ces deux dernières séances. À noter que vous avez Wall Street qui sur des plus hauts historiques, notamment le Nasdaq et le S&P 500, grâce à Apple, hein, qui gagne quasiment 5% ce soir, avec notamment l'intelligence artificielle, le programme qui a été développé lundi, qui continue d'envoler la valeur, au point que c'est désormais la première capitalisation mondiale. Apple, qui est sur des plus hauts historiques au-delà des $200, ça porte le Nasdaq plus 1,9%, quand le Dow Jones gagne seulement 0,2%. Vous voyez vraiment l'impact des valeurs technologiques aux États-Unis. Le CAC 40, donc, qui clôture en hausse après deux séances de baisse, plus 0,97% ce soir au fixing, au-delà des 7800 points, 7864 points, le tout donc avec 3,7 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien.
Étienne Brack à Euronext, merci beaucoup. On se tourne maintenant vers Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct. Il y a clairement eu un avant et un après publication de l'inflation américaine. Et puis quand on a eu cette accélération, finalement, on est resté sur une sorte de plateau hein, jusqu'à la fin de la séance.
C'est exactement ça. On était sous le niveau d'alerte à 7830 points ou autour au moment de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis et ça a permis de déborder ce niveau assez franchement puisqu'on termine un peu loin de ce niveau-là dans des volumes qui sont effectivement plus soutenus que ce qu'on a pu connaître en moyenne au cours des séances des dernières semaines. Donc effectivement des acheteurs qui ont trouvé des points d'entrée pour acheter à bon compte sur des titres. On voit qu'on se précipite pas sur le papier et qu'on manque de relais. On a cet effet hein, avec l'indice CAC 40 qui progresse de moins d'1% alors que l'Eurostox et le DAX évoluent en clôture autour de 1,40%. Donc toujours un peu de prudence. On déborde, on réintègre 7830 points, c'était vraiment le niveau d'alerte. On n'a pas réintégré 7916 points qui serait le niveau de neutralisation de ce mouvement de baisse. On rappelle que sous 7830, la cible c'est 300 points de moins aux alentours de 7500 comme cible. Et si on débordait 7916, on pourrait aller chercher 8005 qui est le niveau de réactivation haussière. Donc pour l'instant, encore un peu de prudence, même si manifestement, on trouve l'occasion de faire des achats à bon compte à court terme.
Merci beaucoup Romain Daubry. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct.
BFM Bourse, on refait la séance.
On refait la séance, bon, on avait commencé de la refaire la séance à partir du moment où on parle de la clôture, on refait la séance. Donc avec nous, Franck Morel, Zone Bourse, Thibaut François, Fastea Capital. Ce qui a marqué cette séance, c'est le rebond des valeurs bancaires hein, qui avaient été attaquées en début de semaine suite à cette dissolution surprise, à cette annonce surprise. Aujourd'hui, on se reprend. Franck, d'après vous, la baisse avait été un peu excessive sur certaines de ces valeurs peut-être ? Sur les valeurs bancaires, non, en l'occurrence,
ah bon,
je pense que ça n'a pas été excessif.
C'est mérité.
Et aujourd'hui, ouais. on est sur un rebond technique. Et effectivement, l'incertitude est grande.
On a eu quand même moins 5, moins 6%, peut-être même plus d'ailleurs, il me semble. Hein, sur
les bancaires sont en première ligne. On est sur des métiers qui sont un peu plus cycliques, où le moindre caillou dans l'engrenage a des impacts considérables sur la rentabilité. On est aussi sur des business qui ne sont pas en croissance et où le moindre mauvaise nouvelle a un impact potentiellement très important sur la rentabilité. En l'occurrence, la dissolution de l'Assemblée nationale est une très mauvaise nouvelle pour le secteur bancaire, avec une baisse de la visibilité qui est considérable. Et je pense qu'on n'a pas fini de baisser sur ce secteur, qui malheureusement, généralement, est précurseur.
C'est le canari dans la mine.
Mon scénario est plutôt une sous-performance de la France, en attendant d'y voir plus clair. Mais l'extrême droite au pouvoir, c'est synonyme de dérapage budgétaire, c'est synonyme de problématiques sur les refinancements, et les premières sociétés en ligne de mire sont les valeurs bancaires.
Qui pourrait être ponctionné. Hein. On a le cas de l'Italie où on parlait d'une surtaxe sur les banques finalement qui avait été édulcorée.
On peut parler d'à peu près tout et se faire peur très facilement avec les programmes envisagés. Oui.
Thibaut François, donc finalement c'était assez, comment dire, cette sanction de ces deux derniers jours sur les banques, ça a été assez soft.
Je suis un peu moins pessimiste, moi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité, effectivement, jusqu'à la fin juin, début juillet, bien entendu. On va d'abord attendre les résultats, parce qu'effectivement, la dissolution, c'est pas forcément la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on arrive dans l'inconnu, potentiellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité sur le futur de l'Assemblée nationale. Effectivement, si l'Assemblée nationale change de façon extrême, là, effectivement, il y aura des vrais sujets en France.
Il y aura des changements de toute façon.
Il y aura du changement, et là, effectivement, on va se mettre des coups de stress. Pour l'instant, on est plutôt dans une réaction épidermique. Alors effectivement, ça bouge. Effectivement, si ça passe d'un point de vue extrême, on va rentrer dans une période où on n'aura aucune visibilité. Aucune visibilité parce que c'est jamais arrivé. Donc on ne sait pas comment ça va être pris. Mal, je pense. Mais effectivement, derrière, c'est quoi les programmes? Parce qu'effectivement, entre le programme, et là, on a l'habitude depuis 30 ou 40 ans, entre le programme qui est annoncé et le programme qui est fait,
il y a quand même
une grosse différence. Les dérapages budgétaires, en fait, on est déjà en dérapage budgétaire depuis 30 ou 40 ans. Donc, effectivement, ça va continuer, mais qui va financer? Donc, il y a plein d'inconnus. Donc, effectivement, qui dit inconnu dit volatilité et surtout baisse des marchés. Mais avant d'avoir cette inconnue, il faut d'abord effectivement aller voter 30 juin, 7 juillet, et puis après on verra.
On a retenu les dates.
Effectivement, s'il y en a un vote extrême, les banques, elles vont être sous pression. Dans un vote classique.
C'est un coup de semonce là.
Dans un vote classique, je pense qu'il y a quand même. Je pense qu'il y a il y a eu trop de baisse sur la partie bancaire. Je pense que la partie bancaire est plutôt à acheter dans des fondamentaux, on va dire, classique.
D'accord. Hors période de stress actuel.
Exactement.
Le calme sera un petit peu revenu. On va demander à Romain Daubry ce qu'il en pense graphiquement parlant de ce secteur bancaire. Vous êtes de l'avis de Franck Morel, comme quoi les banques, graphiquement parlant, enfin les banques françaises, là, elles peuvent tomber encore plus bas. Ce qu'on a vu finalement, c'est un avant-goût de ce qu'elles peuvent retracer comme courbe si jamais il y a véritablement un coup de stress encore plus important.
Alors oui, effectivement, il faut dire que le secteur bancaire a été surperformant depuis plusieurs mois, voire même au-delà de ça. Et c'était un des rares secteurs qui continuait à surperformer l'indice CAC 40. Il n'y avait pas tellement d'harmonie dans les secteurs, et c'était un des rares secteurs qui le faisait. Cela jusqu'à des points hauts à la fin du mois de mai, où là on a atteint des cibles graphiques d'une part, et puis on a commencé à avoir des acteurs qui ont commencé à être en ligne, voire à sous-performer. Et effectivement, le coup d'arrêt donné en début de semaine, rend ce secteur plus fragile, et ça avait déjà été le cas en amont la semaine précédente. Donc un vrai coup d'arrêt sur des niveaux de résistance, et on l'a vu sur plusieurs titres. On a eu ce qu'on appelle des avalements baissiers, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière, donc avant les élections, a englobé la bougie de la semaine précédente, et ça, ce qu'on appelle un avalement baissier en haut de marché et de façon hebdomadaire, c'est souvent un signe d'arrêt. Alors lui seul, ça ne fait pas une tendance, mais il y a un vrai coup d'arrêt. Donc un secteur qui était fort et qui globalement évoluait au sein d'un canal haussier, qui en est sorti par le haut, qui bute sur une résistance. Donc on a au mieux un coup d'arrêt dans la tendance. Alors après, il faut voir titre par titre les comportements des valeurs. Si on regarde la BNP, elle a bien réagi sur un niveau de support à 60-50, mais c'est juste une réaction dans un mouvement qui a été quand même assez violent, avec un gap baissier, avec des volumes très supérieurs à la moyenne. Donc pour les investisseurs agressifs, ça peut constituer des points d'entrée, mais on n'a pas de figure de retournement haussière, évidemment, dans l'immédiat, et on a plutôt eu un coup d'arrêt dans une tendance qui était forte, mais qui ne l'est plus. Donc de façon sectorielle, attention, ça n'est plus le secteur fort du moment, et ça depuis 3 semaines maintenant. Et de façon individuelle, il y a des niveaux à préserver à très court terme, donc il faut regarder cas par cas et selon chaque banque comment les travailler. On est sur des niveaux fragiles et on voit que les rebonds sont plus des rebonds d'opportunités techniques dans un mouvement qui est en tout cas baissier à très court terme depuis le début de la semaine.
Un secteur qui a marqué la séance aussi, c'est l'automobile. Alors au sein des valeurs automobiles françaises, il n'y a pas eu trop de mouvement, mais c'est surtout les valeurs allemandes qui sont attaquées pour un Dieselgate en Grande-Bretagne. Et une autre info certainement plus importante aussi qui concerne tout le secteur, c'est cette taxe supplémentaire, ou plutôt ce relèvement de taxes douanières de Bruxelles sur les véhicules électriques chinois, 38%. Quelle est la portée d'une, ou quelle serait la portée d'une telle mesure, Franck ?
La portée, c'est des mesures protectionnistes, mais à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. C'est déjà mieux.
Ah, c'est déjà solide. Pas mal. Oui, bien sûr.
On part dans la continuité de nos discussions.
Donc pourquoi on s'inquiète pourquoi est-ce que les valeurs allemandes, justement, donc, parce que là, ça concernerait les valeurs chinoises.
Les valeurs allemandes très exportatrices, Porsche, BMW, Mercedes, c'est 25% de leur chiffre d'affaires est fait en Chine. Fort à parier qu'il va y avoir une réponse de la Chine. Donc les grands gagnants, c'est en premier lieu par exemple Renault, qui fait pas de business en Chine, mais qui subissait la concurrence chinoise et qui la subira de toute manière, mais avec des prix pour ses concurrents plus élevés de 25 à 38%. Donc Renault fait partie des gagnants de cette situation, les constructeurs allemands les grands perdants. Si on joue un coup plus loin, on a effectivement un risque de sur le secteur du luxe, si toutefois la Chine mettait en place des mesures équivalentes sur les produits français, les produits du luxe en premier lieu.
Quelque chose à dire là-dessus, Thibaut François, sur l'automobile. C'est un secteur auquel vous vous intéressez, les valeurs automobiles françaises, les équipementiers automobiles?
Beaucoup moins ces dernières semaines, ces derniers mois. On trouve qu'on est rentré dans un momentum qui est un peu plus compliqué pour le secteur automobile. 2024 va être compliqué, il y a moins de volume. La valorisation de l'ensemble du secteur est encore une fois à la casse. Malgré la qualité des dirigeants, on est sur un secteur qui est à la casse, mais la valorisation malheureusement ne suffit pas à acheter aujourd'hui sur le marché, mais aujourd'hui le momentum n'est pas forcément très porteur, donc pour l'instant on est plutôt neutre sur l'ensemble du secteur, avec une préférence aussi pour Renault qui rebondit bien et sur lequel il y a pas mal de potentiel.
Donc il y a encore du potentiel bien que la valeur ait beaucoup rebondi. Je ne sais pas si Romain Daubry a un avis certainement sur le secteur automobile, les valeurs françaises en particulier ou les valeurs allemandes, vous êtes libre.
Alors, sur le secteur automobile, si on le regarde en Europe de façon générale, il avait surperformé quelque temps. Ça a été de courte durée par rapport aux indices de référence. On parle de surperformance quand le secteur progresse plus qu'un indice de référence comme l'Eurostox ou comme le CAC 40. En Europe, ça a été de courte durée. Ça a été de fin janvier jusqu'au mois d'avril. Et depuis, le secteur globalement ne surperforme pas autant. Maintenant, à l'intérieur des secteurs, et c'est ce qui se passe beaucoup dans ce marché, il faut faire du stock picking, aller choisir des titres en particulier. Et il y a des titres, en France, notamment un titre comme Renault qui surperforme et qui donne un parcours haussier qui est vraiment intéressant depuis quelques semaines maintenant. C'est un titre Renault qui n'avait rien fait de 2020 à mars 2024 et qui est sorti d'une longue période d'accumulation par le haut puissamment de la zone 37-30, 41-25 et qui ouvre à ce moment-là la voie à une tendance haussière et à une progression haussière assez marquée. Les cibles idéales de cette sortie par le haut se situent entre 66,70 et 69,84
pour un titre qui cote 50,78.
Absolument. 50,78 ce soir. Donc il y a encore une prime de plus de 30% sur le titre si on suit ce parcours graphiquement. Maintenant, à court terme, il y a un petit peu de pause dans la tendance et on pourrait imaginer une consolidation au-delà de 48,30, entre 48,30 et 51,80, on va dire. Mais c'est une pause à court terme dans une tendance qui est forte et un actif et une valeur qui surperforme, elle, de nettement le secteur.
Alors, le gain du jour, c'est Atos, moins 20%, 77 centimes d'euros. On est vraiment, ça devient un penny stock, carrément.
C'est la façon de faire.
Petit mot rapide, l'un ou l'autre sur Atos.
Oui. Je crois qu'on peut dire qu'il va y avoir une recapitalisation et qu'il va y avoir une dilution massive qui laisse supposer un objectif de cours de 0,20, 0,30.
D'accord. Donc ça risque encore d'être divisé par 3 ou par 4. Là.
Après une recapitalisation qui sera d'ailleurs peut-être même pas suffisante.
À l'écart. À l'écart. Il vous reste une minute chacun pour nous donner une pépite. Thibaut, laquelle est-elle ?
Allez, on va parler de Boiron ce matin.
Allez, granule.
Ce soir, Boiron, effectivement, homéopathie. Un dossier qui a failli sortir de bourse l'année dernière. La famille et un fonds de private equity ont essayé de sortir de bourse autour de, pour faire simple, autour de 40 euros. Personne n'a apporté à 40 euros, pas un investisseur pensant jouer une hausse assez massive du titre, parce qu'effectivement, à 40 euros, c'était pas très bien rémunéré. Et aujourd'hui, on se retrouve presque un an après avec une décote par rapport aux 40 euros à presque 15 ou 20%. Alors il y a eu un dividende qui a été versé, mais effectivement aujourd'hui on a beaucoup de potentiel. C'est un titre qui devrait sortir de bourse parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester en bourse. La valorisation est faible et le potentiel nous reste intact.
Et Franck, votre pépite en 30 secondes, je suis désolé.
Oui, je vais vous parler de Super Micro Computer qui est, qu'on a en portefeuille dans le cadre de notre portefeuille US, qui est notre plus belle opération l'année dernière, puisque en l'espace d'un an, on a fait x8 sur le titre, on a pris nos bénéfices, on est revenu après une petite correction de 20% à $800 environ. Et donc Super Micro Computer, c'est le spécialiste de l'assemblage de serveurs, plus particulièrement les serveurs liés à l'IA. Ça se paye 23 fois les profits. Les perspectives sont extrêmement bonnes. Et donc on est à l'achat sur Super Micro pour miser sur la poursuite de la phase d'équipement en serveur d'intelligence artificielle.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup à tous les deux. Franck Morel, Thibaut François, merci à Romain Daubry, bien entendu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. BFM Bourse revient dès demain à partir de 15h30. Dans l'immédiat, vous retrouvez Good Evening Business, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, bien entendu, et Edwige Chevrillon. Très bonne soirée à toutes et à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.